Vous avez aussi parlé, lors de votre retour à l'état, on va dire, conscient physique, sur le plan physique, vous avez parlé donc, et vous avez dit que vous avez traversé différentes couches, si on peut, je dirais,
Oui.
s'exprimer comme ça. Et dans l'une de ces strates, on va dire, pour parler comme ça, vous avez dit que vous aviez vu des êtres en souffrance.
Oui. Des êtres, j'avais l'impression des êtres attachés à la terre, en souffrance, malheureux. Et évidemment, après, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Je me suis dit, moi j'ai fait l'aller-retour hein, quand j'ai fait cette expérience. J'étais dans la lumière, je suis revenue comme ça dans mon corps, sur la terre. Mais quelquefois, je me demande si j'avais été morte définitivement. Dans quel état de conscience, dans quel endroit, puisque les états de conscience, c'est des lieux aussi quelque part, où est-ce que je serais? Et là, c'est justement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je témoigne en ce moment, parce que j'ai la ferme conviction que tout dépend de notre état de conscience juste avant de mourir. C'est vrai que si on a toujours entretenu des pensées belliqueuses, des pensées de mesquines, disons, tout au long de notre vie, eh bien, on vibre finalement sur une fréquence, on a un état de conscience qui, peut-être, qui nous amarre au sol. Hein? Puisque c'est une densité quand même, hein, toutes ces... Tout ce qu'on ressent en nous, les émotions négatives, comment les égoïstes, les jalousies, c'est comme si c'était quelque chose qui avait un poids. Et donc, évidemment, ça nous cloue au sol, ces choses-là. Et d'où tout l'intérêt, je crois, de prendre conscience de tout ça et d'entreprendre déjà sur la terre un certain travail parce que bon, ben, je pense que déjà, durant une telle expérience, on peut aborder d'autres états de conscience et sur la terre. On est déjà bien plus heureux parce que le ciel, ce n'est pas des millions d'années-lumière d'ici. Le ciel, c'est un état de conscience en nous. Hein? C'est extérieur et c'est en même temps en nous, quoi. Alors, il me semble que les personnes qui sont peut-être attachées à la terre, il me semble, c'est peut-être simplement des personnes qui sont peut-être encore trop attachées aux biens matériels, aux êtres qui sont ici, d'une façon non altruiste, disons. C'est possible à certaines situations. Peut-être qu'il y a beaucoup encore de jalousie, de mesquinerie ou simplement un attachement trop violent à quelque chose que le détachement n'a pas encore fait son œuvre. C'est possible.
Une chose aussi très importante que j'ai notée, c'est vous avez parlé du retour du Christ.
Ah oui.
Et que ce retour serait, je dirais, pour bientôt, si j'ai bien compris.
Oui.
Est-ce qu'il faut entendre par le retour du Christ, on va dire, un retour sur un certain plan de physique, ou est-ce qu'il s'agirait peut-être d'un retour dans la conscience des individus?
J'ai plutôt l'impression que ce sera dans la conscience. On me disait que c'était imminent. Imminent, mais imminent, ça peut être demain, dans une seconde ou dans un siècle, parce que le temps, on ne peut pas le mesurer. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt un retour dans la conscience et que nous-mêmes, nous faisons partie de la conscience Christ, nous sommes une petite étincelle de conscience de lui-même, d'où quand même l'importance d'en prendre conscience pour comment s'ouvrir à cette dimension-là. Et on me disait en plus que j'ai oublié de dire tout à l'heure, que ça peut être important, que le Christ reviendrait rétablir les mystères et l'initiation. Et je sais que de l'autre côté, je comprenais ce que ça voulait dire. J'ai dû retrouver tout comme ça dans ma conscience humaine, les mystères et l'initiation. Et voilà, et ça explique pourquoi, finalement, dans l'expérience que j'ai vécue, ça explique pourquoi on me disait des grands êtres tels que le Christ, Bouddha, Mahomet, qui sur des plans intérieurs, travaillaient ensemble à la régénération de la terre, parce qu'évidemment, sur tout ce qui est dogmatique, sur des plans, sur les rites, etc., c'est pas la même chose. Mais la voie intérieure, c'est celle finalement qui vous conduit à faire l'expérience de Dieu en nous, de cette grande source. Et donc, bah, c'est la voie de l'initiation finalement, c'est la voie des mystères, hein, les mystères de notre être et prendre conscience de qui on est, etc. Et là, c'est très très important. Moi, je pense que ce retour du Christ pour justement rétablir les mystères initiation. C'est quelque chose que toutes les religions ont besoin, parce que maintenant, il ne suffit plus d'être dans la croyance. La croyance peut vraiment nous éloigner les uns des autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'intolérance dans les croyances. Tandis que dans la voie de la transformation, bien, il ne peut y avoir que l'unité, puisqu'on est tous pareils, on a tous les mêmes problèmes.
Voilà.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que j'offre cette expérience, vraiment de tout cœur, à tous les êtres qui sont en deuil, qui sont en souffrance, qui sont en recherche spirituelle. Parce qu'évidemment, moi, je suis convaincue que la mort n'existe pas. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je respecte trop la sensibilité des gens. Mais c'est vrai qu'en en étant convaincue, combien je souffre de voir des gens qui ont perdu un être cher et qui sont dans le désespoir le plus complet, alors que je sais qu'on se reverra. Ça n'empêche pas la souffrance de la séparation, ça empêche le désespoir quand même. Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, eh bien, élevez-vous. Élevez-vous au sommet de votre âme, parce que sur les plans intérieurs, eh bien, la personne qui est décédée, elle se trouve déjà dans la lumière, ou elle est sur le chemin qui conduit vers la lumière. Et puis nous, souvent, on est encore dans la peine, dans la tristesse, etc. Ça se comprend. Mais si on s'élève au plus haut de nous-mêmes, j'ai envie de dire, mais fermez les yeux. Moi, j'ai envie de dire, fermez les yeux. Imaginez un moment où vous étiez bien ensemble. Un moment de joie, un jour de Noël, etc. Et puis gardez ce moment-là le plus longtemps possible en vous. Parce que c'est sur, justement, c'est sur ce moment de bonheur qu'on se retrouve. C'est comme la chenille qui devient un papillon. De l'autre côté, eh bien, nous disparus sont des papillons. Et puis nous, eh bien, c'est sur cette hauteur-là qu'on les rejoindra. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Madame Dron, quelle chance vous avez, vous êtes élue. » Il y a 6 milliards d'élus sur la Terre, puisque chacun en a cette vie, cette lumière de vie en nous. Moi, je veux bien qu'on dise que je suis un témoin de la lumière, d'accord, puisque c'est vrai. Mais au point de vue de réalisation, ben, je suis comme tout le monde sur le chemin, hein, peinant bien souvent, parce qu'il y a une grande différence entre voir la lumière et la réaliser en soi. On a tout le monde les mêmes difficultés. Je souhaite mourir vivant. Alors, entendons bien comme je le dis, c'est évident que je ne souhaite pas que mon corps meure pour autant, mais vraiment, Saint Jean de la Croix a dit « Je meurs de ne pas mourir ». Pendant longtemps, je ne comprenais pas ce qu'il avait dit, puis maintenant, bien sûr que je le comprends. C'est-à-dire que c'est tellement difficile de mourir à tous nos désirs, à tous nos vouloirs, à tous les conditionnements qu'on a en soi, que vraiment on peine, et je le désire de tout mon cœur, quoi, ça. Alors donc, pour moi, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de retrouver cette plénitude, quoi, cette paix-là. J'ai remarqué que, à la suite de cette expérience, j'ai remarqué que je comprends beaucoup plus facilement les textes sacrés, et même les symboles et les textes mythologiques. C'est comme si une intelligence, finalement, m'avait imprégnée pour mieux comprendre ça. Oh, j'ai encore beaucoup de choses à comprendre, c'est évident. Je sais que c'est quelquefois difficile à vivre une telle expérience, parce que ça remet tout en cause, même si on ne dit rien. Dans mon couple, par exemple, j'ai la chance d'avoir un mari qui m'a accompagnée, mais je le remercie infiniment, parce que ça n'a pas été facile pour lui. Parce que, comment dire ça ? Je reviens de l'autre côté avec des désirs de comprendre les choses. Je m'intéresse d'un seul coup au temps, à l'espace, à la conscience, en l'énergie, à l'astrologie, à un tas de choses que lui, finalement, n'était pas prêt pour ça. Et ça crée quelquefois quelques tensions, etc. Mais avec le temps, et puis avec beaucoup d'amour, et je crois que j'avais aussi, moi, à acquérir des dispositions intérieures d'écoute, peut-être, hein, de patience et de tolérance, eh bien, je crois que finalement, tout s'harmonise. Pour les enfants, c'est pareil. J'ai dû les protéger, parce que combien de fois ils ont eu mal au cœur quand ils sentaient que moi, j'étais... qu'on m'attaquait finalement, que les gens ne comprenaient pas cette expérience-là. et que j'avais quelques petites réflexions, ils en souffraient, donc j'ai dû les protéger. Mais je suis bien contente quand même d'avoir vécu cette expérience parce que j'ai eu tendance à la renier pendant un moment pour être comme tout le monde, pour continuer à être aimée. Et puis je me suis rendu compte que si je reniais cette expérience, c'est comme si je mourais quelque part. Combien de fois j'ai dû endosser un petit peu l'ironie, l'indifférence, la condescendance des gens. Mais je suis contente. Je suis contente d'avoir quand même passé par tout ça. Et je me rends compte maintenant que toutes ces expériences étaient là quelque part pour tremper l'acier. Alors maintenant, évidemment, eh bien, je prends conscience que j'ai vécu cette expérience. Et pendant cette expérience, finalement, j'ai compris à quel point il était nécessaire de mourir à toutes mes imperfections. Et puis maintenant, je comprends que le but de cette expérience, eh bien, c'est peut-être de retrouver cette source en moi et peut-être d'éveiller l'autre à cette source aussi en lui. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important.
Oui, Madame Dron, à l'issue de cette expérience que vous avez faite, comment votre vie, à la suite de cette expérience, comment avez-vous pu cohabiter avec ce qui s'est passé, compte tenu qu'il y a quand même un certain décalage entre notre terre et là où vous étiez?
Oui, absolument. Puis c'est une souffrance de ne pas pouvoir réaliser dans la matière l'idéal que l'on a goûté de l'autre côté. Ça, c'est un fait certain. Mais déjà, je me rappelle que lorsque je me suis réveillée, j'ai déjà eu d'abord à gérer la douleur. C'est bizarre parce que j'ai eu l'impression que je me suis installée entre mes omoplates. C'est drôle, cette impression. Déjà, 2-3 jours après, j'ai voulu parler de cette expérience à mon mari. Je m'y suis très mal prise et donc je me suis tue. Et j'ai pris conscience que je n'étais pas partie de l'autre côté avec un appareil photo. Donc je ne pouvais rien prouver. J'ai eu envie de dire au médecin, vous savez, j'ai vu mon petit frère, j'ai vu le frère de mon mari. On m'a enseigné sur un tas de choses. Puis je me suis dit, oh là là, ils vont dire, ça y est, Madame Dron, faites un beau... Dormez bien cette nuit, tout ira mieux demain matin. Puis si le lendemain matin, ça n'avait pas été mieux, et si dans les jours qui ont suivi, j'avais récidivé, etc., qu'est-ce qu'on m'aurait fait? Peut-être qu'on m'aurait donné des tranquillisants, etc. J'avais conscience de ça parce que je pense qu'indirectement, on a tous un instinct de conservation. Et en plus, cette expérience-là, pour moi, elle est sacrée. Je n'aurais jamais pu accepter qu'on la démolisse, mais en même temps, je n'avais pas les moyens de la défendre. Je n'avais pas le vocabulaire, je n'avais rien pour la défendre. Alors je me suis tue. Je me suis tue pendant des années. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile du tout à vivre. Après, mes enfants sont partis à l'école maternelle, j'ai disposé d'un peu plus de temps. Je me suis mis à étudier ce qu'il y avait de commun, en gros, bien sûr, dans les religions. J'ai un frère qui a été gravement malade, qui a fait une grave dépression. J'ai voulu donc mieux le comprendre. Je me suis mise à lire des livres de Freud, mais ça ne me suffisait pas, de Jung, de Pierre Dacot. Pour maintenant, je comprends que ce qui m'intéressait était la psychologie transpersonnelle, celle qui inclut du moins le sacré, la spiritualité dedans, quoi. Tout ça pour m'apercevoir au fil et à mesure du temps que, eh bien, en voulant comprendre les autres, en même temps, je prenais un chemin de compréhension aussi pour moi. Je n'ai parlé de cette expérience à mon mari que 8 ans après, lorsque nous avions un ami qui est décédé. Et là, je lui ai dit, tu sais, bon, Claude est décédé, mais moi, je sais qu'il n'est pas mort, etc. Et j'ai osé lui en parler 8 ans après. Et je me suis aperçue, parce que je pensais tout le temps que si j'en parlais pas dans mon entourage, que c'était la faute des autres, c'est parce qu'ils ne pourraient rien comprendre, etc. Mais finalement, je me suis aperçue que, mais non, l'entourage n'y était pour rien. Que c'était mes propres peurs qui m'empêchaient d'en parler. J'avais peur qu'on me prenne pour une illuminée dans le mauvais sens du terme. Et lorsque j'ai eu assez de force, finalement, intérieure, pour parler de tout ça, eh bien, je me suis rendu compte que certaines personnes étaient intéressées, d'autres changeaient de conversation, mais qu'importe, ça n'avait déjà plus d'importance. Et donc, tout en allant, ça s'est fait quand même sur bien des années. Je me rends compte maintenant que tout un chemin initiatique a été entrepris. Et puis voilà quoi. Voilà, et parallèlement, évidemment, ben, dans mon couple, dans mon foyer, bon, il a fallu vraiment nous harmoniser. Je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, mon mari a eu très peur, surtout quand je me suis intéressée à un tas de choses à la fois. Et c'est vrai que si c'était lui qui avait eu l'expérience, ben, moi, je réagis de la même façon. Il avait peur que je lui échappe quelque part, comme il m'a dit, ou alors que je rencontre quelqu'un avec qui j'aurais plus d'affinité que lui, alors que moi, je lui demandais tout simplement de rester tel qu'il était, qu'il n'avait rien à changer à ce qu'il était, quoi. C'était tout simple, que je pouvais simplement compter sur lui. Et il lui a fallu beaucoup d'amour et je le remercie infiniment. De la même façon pour mes enfants, ce qui a été très difficile pour moi, c'était de vivre, disons à l'intérieur de moi, quelque chose de puissant, quelque chose d'immense, mais sans pouvoir me confier à qui que ce soit. Non pas que les autres ne voulaient pas, mais disons que qu'ils n'auraient pas pu comprendre. Parce que, bon, les êtres avec qui on est, eh bien, ils vivent dans l'immédiat, dans le quotidien, bon, avec des pensées, bien sûr, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, etc. Mais moi, ça dépassait tellement ça, quoi, avec une aspiration tellement profonde, que j'avais peur, en leur disant tout ce qui me passait par la tête, que j'avais peur de leur faire peur, quelque part. Donc, je me suis tue. Et ça n'a pas été très, très facile. C'est un petit peu comme si j'étais habitée par une flamme intérieure qui était dévorante, quoi. Et j'avais envie de parler de cette expérience aux autres, parce que j'ai bien conscience que ça peut transformer, que ça peut changer une vie. Mais en même temps, si je risquais d'en parler de trop, ben ça bloquait. Et je ne trouvais pas les mots, parce que les mots ne sont que des mots. Et c'est l'essence des mots, c'est le parfum des mots qui peut transformer quelque chose. Et je me suis rendu compte, mais bien après, il m'a fallu du temps, que mon incapacité finalement à trouver les mots pour parler de cette expérience aux gens, eh bien cette incapacité-là, c'est comme si qu'elle brûlait des peurs à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois, je cherchais comment je pourrais mieux faire, comment je pourrais dire pour que telle chose soit comprise. Et ça m'a permis de dépasser mes propres peurs. Des peurs de qu'est-ce qu'on dira si un jour je témoigne, et puis si je ne sais pas dire les choses de telle façon, et si j'ai un trou de mémoire, etc. Eh bien, il a fallu arriver à une humilité plus grande, à presque une innocence de me dire, eh bien, si je ne sais pas, c'est pas grave. Je dirais, ben, je ne sais pas, tant pis, tout simplement. Si je perds le fil, eh bien, je dirais, excusez-moi, j'ai perdu le fil, et puis voilà. Et donc, c'est vraiment le désir puissant de partager ça qui, en même temps, eh bien, à brûler des choses en moi, quoi, qui faisaient obstacle à tout. Et je remercie. Et maintenant, je remercie la Providence parce que je me dis que si j'étais restée dans mes peurs, peur du paraître, peur du qu'en dira-t-on, eh bien, j'aurais été très malheureuse au fond de moi-même. Et peut-être que ça, là au moins, je pense que ça peut aider certaines personnes et j'en suis ravie.
Oui, Madame Dron, à l'issue de cette expérience, et compte tenu, je dirais, d'une certaine hostilité du monde et du milieu médical à l'égard de tout ce qui n'est pas conforme, entre guillemets, est-ce que vous avez vu, au cours de ces dernières années, un changement dans ce monde, puisque vous avez dit tout à l'heure que maintenant, certains médecins, et non des moindres, commençaient vraiment à s'intéresser à ce qui se passait après ce qu'on appelle la mort du corps physique?
Mais un très grand changement. Il y a encore quelques années, bon, les médecins étudiaient donc cette expérience-là par différentes associations, dont IANS, dont le CMI, des associations qui regroupent donc des scientifiques de tous bords pour étudier ces expériences. Et pendant très longtemps, évidemment, ils ont eu raison, ils ont cherché, est-ce que c'est pas un excès d'endorphine ou un manque de d'oxygène, etc., qui provoque ces expériences. Et on a pensé même que c'était le cerveau qui provoquait ces expériences. Mais là, je vais très vite parce que donc le temps est limité. Mais certaines expériences, eh bien, prouvent justement que la conscience survit à la mort. Les médecins ont eu le cas de plusieurs personnes qui ont fait donc la même expérience que moi, et pendant que l'électroencéphalogramme était plat, pendant que l'électrocardiogramme plat était plat aussi, mais surtout l'électroencéphalogramme, et que le tronc cérébral ne marchait pas, la personne, et on a pu situer ça à tel moment, parce que tout était enregistré, la personne dit être sortie de son corps, avoir vu la lumière, avoir vu la grand-mère, etc. etc. Donc maintenant, grand mouvement dans le milieu médical, la conscience survivrait-elle à la mort? Pour moi, c'est vraiment quelque chose de... J'en suis vraiment ravie qu'on en arrive à étudier la conscience. Et je suis vraiment ravie aussi que de certains milieux, de certains mouvements qui se sont mis en place, peut-être grâce après l'étude de ces expériences, comme l'accompagnement des mourants en milieu hospitalier, les soins palliatifs. Et moi-même, j'ai perdu un frère et mon père en 96, maman qui vient de nous quitter cette année. Et je peux vous dire que j'ai accompagné mes parents. Quand mon père est décédé alors qu'il avait ma main dans ma main, et j'étais en train de lui dire, « Papa, je t'en prie, tu nous as tellement aimés, tu nous as tellement guidés. » Eh bien, tu vas avoir la plus grande surprise de ta vie. Dans quelques secondes, tu vas être debout auprès de ton corps. Je te remercie de tout ce que tu m'as donné. Je t'aime, mais ne reste pas enfermé là. Et avec maman, tout au long de quelques années où elle était dans une maison de retraite médicalisée, où elle était malheureusement invalide à cause d'une maladie nerveuse, etc. Eh bien, ça a permis à maman, cette expérience-là, quand je lui ai raconté, ça lui a permis d'accepter de quitter sa maison qu'elle aimait beaucoup. Ça lui a permis d'accepter la dépendance et de savoir qu'elle rejoindrait papa. Et elle me demandait comment ça allait se passer. Mon ami est décédé il y a un mois et avant de mourir, 2-3 jours auparavant, elle m'a dit, tu sais Nicole, j'ai peur de mourir. Mais je lui dis, Daniel, je te comprends parfaitement, l'instinct de conservation est tellement fort. Elle me dit, peux-tu me redire ton expérience pour voir un petit peu ce qui va m'arriver? Et puis voilà, et elle a écouté attentivement. Et je sais que ça crée une ouverture, ça crée un abandon, un lâcher prise.
Et voilà. Probablement que le fait de vous avoir écouté l'a mis en condition, je dirais, de se trouver... Après, je dirais, la mort de son corps physique, en pays connu, peut-être.
Je l'espère de tout mon cœur, je l'espère. Et oui, alors je pense que de telles expériences, dans la mesure où on ne se ferme pas à une telle possibilité, dans la mesure où on ne se bloque pas, eh bien, ça peut-être aider après le passage, quoi. Parce qu'on doit être très étonné de se sentir vivant. On doit se demander ce qui nous arrive, sinon... Tandis que là, si on en a entendu parler un peu, eh bien voilà, ça peut être très approprié à certains moments de savoir ça. Alors, je voudrais terminer par quelque chose. C'est vrai que je souhaite à toutes les personnes qui entendront ce témoignage une bonne route vers leur âme. Je leur souhaite de tout mon cœur. Et pour moi, j'aimerais que lorsque je retournerai dans la lumière de Dieu, j'aimerais que toutes les petites graines de lumière qui ont été semées un jour aux quatre vents dans le cœur des hommes soient devenues des pierres précieuses. C'est mon vœu le plus cher.
Madame Dron, je vous remercie au nom de l'association Sagesse et Méditation et je vous dis à bientôt.
Je vous remercie aussi. Et merci à l'association de m'avoir invitée.